Selon l'évangile de Jean, Jésus a reçu ce message lui disant que son meilleur ami Lazare était très malade. Jésus aimait Lazare. Il avait été dans sa maison, il avait trouvé dans la maison de cet homme un endroit de repos, un endroit de paix, un endroit où il était à l'abri des attaques et où il y avait là des gens qui le comprenaient et qui l'aimaient. Lazare, Marthe et Marie avaient témoigné envers Jésus beaucoup d'affection, beaucoup de compréhension. Leur maison lui était ouverte. Et il reçoit un jour ce message: « Ton ami Lazare est très malade. » Lorsque ce message est arrivé à Jésus, les disciples ont imaginé facilement que Jésus allait s'empresser de retourner à Béthanie pour guérir Lazare. Curieusement, Jésus n'a rien exprimé de particulier, mais il a renvoyé le messager avec cette parole: cette maladie n'est pas à la mort. Marthe et Marie ont reçu ce message comme extrêmement encourageant, ce qui veut dire en d'autres termes: ne vous inquiétez pas, c'est un mauvais moment pour Lazare, mais il va guérir. Encouragées par cela, elles ont aussi voulu encourager Lazare à reprendre force. Mais imaginez ce qui a traversé l'esprit de Marthe et Marie le jour où elles ont vu Lazare rendre son dernier souffle. Jésus a dit « ce n'est pas à la mort » et voilà que Lazare est mort. Qu'est-ce qu'il faut en penser maintenant? Et il nous est arrivé les uns et les autres à de maintes reprises de connaître des promesses de la part de Dieu, de partir dans notre existence avec une conviction, d'avoir l'impression même que le Seigneur a répondu à des prières précises, et ça ne marche pas, et ça ne s'accomplit pas, et ça tourne de travers. Et on se dit, mais enfin, est-ce que le Seigneur n'avait pas dit, est-ce qu'il ne nous a pas montré, est-ce qu'il n'y avait pas des promesses claires du Seigneur à ce sujet-là? Est-ce que vraiment on peut y croire? Ce sont précisément là toutes ces questions qu'ont traversé l'esprit de Marthe et Marie le jour où, devant le corps de leur frère, elles repassaient dans leur esprit ce message de Jésus: cette maladie n'est pas à la mort. Mais alors, pourquoi? Et le temps passe. 3 jours après sa mort, Jésus dit à ses disciples: maintenant, retournons à Jérusalem. Ils avaient oublié. Jésus leur dit: Lazare dort. C'est parfait. Pour eux, dans leur esprit, la chose est réglée. Il va mieux. Non, vous n'avez pas compris, les amis. Lazare est mort. Et les disciples ne comprennent plus. Jésus savait. Jésus a dit: ce n'est pas une maladie à la mort. Et maintenant, Jésus dit: non, il est mort. Mais alors quoi? De plus, les disciples n'ont pas du tout envie de retourner à Jérusalem, parce que c'est précisément là que se trouvent tous ceux qui ne demandent qu'une chose, c'est attraper Jésus et l'éliminer. Les disciples n'ont pas envie de retourner à Jérusalem. C'est trop dangereux. Ils vont suivre Jésus sans comprendre vraiment ce qui se passe, et Jésus va s'arrêter à distance, à Béthanie, derrière le mont des Oliviers, à quelques pas finalement de Jérusalem. Et il va faire dire à Marthe qu'il est là. Le message va lui être glissé dans le creux de l'oreille. Elle va sortir discrètement de la maison et va se rendre là où se trouve Jésus. Marthe va tomber aux pieds de Jésus et lui dire cette phrase que l'on peut facilement comprendre: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et l'on comprend dans cette phrase le mélange que Marthe fait de reproches et de remerciements d'être venue, mais trop tard. Si tu avais été là, dommage que tu n'as pas pu venir à temps. Et c'est vrai, si Jésus avait été là, la mort n'aurait pas approché, Lazare ne serait pas mort, c'est évident. Alors Jésus, sans répondre à cette question précise de Marthe, va lui dire, mais ton frère ressuscitera. Et ce dialogue nous est rapporté dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Il est extrêmement intéressant. On voit Jésus qui veut pousser Marthe dans les retranchements les plus secrets de sa foi. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Et Marthe le sait, elle lui dit, je sais qu'il va ressusciter, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Elle était au clair sur le moment de la résurrection. Elle savait que la résurrection a lieu à la fin des temps, au dernier jour. Mais Seigneur, même s'il ressuscite au dernier jour, ce dont elle avait l'assurance, ça ne lui rend pas son frère maintenant. Alors Jésus lui dit, mais je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Marthe, qui est encore dans son deuil, entend Jésus. Mais elle a de la difficulté à le suivre jusqu'au bout. Parce que Jésus est en train de lui dire, Lazare va ressusciter au dernier jour. Mais dis-moi, Marthe, au dernier jour, qui donc va ressusciter Lazare ? Jésus voudrait faire comprendre à Marthe que celui qui, au dernier jour, va donner la vie à Lazare, c'est exactement celui qui se tient devant elle maintenant et qui s'appelle la résurrection et la vie. Et si c'est lui, est-ce qu'il ne peut pas rendre à Lazare la vie maintenant ? S'il le peut à la fin des temps, pourquoi ne peut-il pas le faire maintenant ? C'est difficile pour Marthe d'aller jusque-là. Et on la comprend. Est-ce que nous serions allés jusque-là dans la réflexion avec Jésus ? Est-ce que nous l'aurions suivi jusque-là pour lui dire « Mais alors Seigneur, si c'est toi, fais-le maintenant, fais-le tout de suite, qu'attends-tu donc ?» Est-ce que nous serions allés jusque-là ? Jésus va faire venir Marie. Marthe, retournant à la maison, va dire à sa sœur « Le maître est ici, il t'appelle. » Marie va sortir de la maison, mais voyant déjà les deux sœurs partir de la maison, les gens qui sont là pour pleurer vont sortir avec elle. Ceux qui sont là, ce sont les gens de la famille, ce sont ceux qui de loin ou de près se sont rassemblés parce que Lazare est mort. Et beaucoup de gens viennent en réalité de Jérusalem. Ils sont des prêtres. Ils sont des personnalités importantes du monde religieux de Jérusalem. Ils sont venus. Et ils font partie de ceux qui sont en réalité les plus acharnés contre Jésus. Ceux que les disciples craignaient précisément de rencontrer. Ils sont là et ils pleurent, eux aussi. Ils vont suivre Marie pensant qu'elle va au tombeau. Et c'est Jésus qu'elle rencontre. Et que pensez-vous qu'elle dit à Jésus pour commencer ? Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus entend cette parole et comprend que c'est la réaction spontanée de cette sœur devant la mort de son frère. Marthe, Marie, ceux qui sont là, Jésus, vont se diriger vers le tombeau sur la demande de Jésus. Où donc l'avez-vous mis ? Où est-il ? Alors ils vont au tombeau, mais la pierre a été roulée. On a fermé la tombe, ça fait déjà plusieurs jours qu'il est là. Et Jésus va dire quelque chose d'inimaginable. Roulez la pierre. C'est curieux parce qu'il aurait pu le faire lui-même. Jésus aurait pu ordonner à cette pierre de se rouler toute seule. Mais comme d'habitude, Dieu veut utiliser les êtres humains et collaborer avec nous dans son œuvre de vie. Oh, c'est sûr, Jésus aurait pu tout faire, tout seul. Mais Dieu ne se passe pas de l'aide des humains. Et à cet ordre incroyable de Jésus, rouler la pierre, Marthe lui dit, arrête, il sent déjà. C'est pas la peine d'aller voir. Tu n'as jamais vu ce que c'est. Marthe, c'est la patronne de la maison. Et elle pense arrêter Jésus dans ses élans. Maître, il sent déjà. Et Jésus la reprend et lui dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Là encore, Jésus reprend Marthe et lui dit, mais enfin, est-ce que tu crois ou est-ce que tu ne crois pas? Qui est devant toi maintenant, Marthe? Roulez la pierre. Et lorsque le tombeau est ouvert, les gens ont arrêté de pleurer parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se prépare. Les pleureuses et les joueurs de flûte, tout le monde s'est arrêté. On est préoccupé par ce que Jésus est en train de faire, celui qui n'est pas arrivé à temps. Et l'on peut imaginer dans cette scène un immense silence où Jésus est là, au centre de ce grand scénario. Roulez la pierre. Et lorsque Jésus donne un ordre, on ne discute pas, même quand on s'appelle Marthe. Les hommes qui sont là, sans même comprendre pourquoi ils le font, vont et roulent la pierre. Ils sont plusieurs, ils sont nombreux à rouler cette pierre. C'est un moment de grand silence parce que on se demande, mais Jésus en a fait plus d'une. Que va-t-il faire maintenant? Simplement voir son ami Lazare encore une dernière fois? Et lorsque la pierre est roulée, lorsque les hommes sont redescendus, Jésus donne un autre ordre après avoir prié. Lazare sort. Là, on aurait pu entendre les mouches voler. Qui peut dire devant un tombeau, Lazare sort? Qui peut dire ça? Il y a là les Sadducéens et les pharisiens et les docteurs de la loi et les curieux et la famille et Marthe et Marie. Qui peut dire, Lazare sort? Qui a l'audace? Et dans ce silence total, on entend au fond de la tombe du bruit. Lazare s'assied. Il essaye de se débarrasser de ce qu'on a mis autour de lui, les bandes. Et tant bien que mal, il sort. Et vous entendez dans la foule, ah ! Tous les yeux sont rivés sur l'entrée de la tombe. Et Lazare qui est là. Et Jésus dit, mais voyons, libérez-le. Ne voyez pas qu'il est vivant ? Libérez-le de ces bandes et de tout ce que vous avez mis autour de lui. Libérez-le, il est vivant maintenant. On va s'approcher de Lazare, on va le débarrasser de ses bandes, on va regarder si c'est lui, si ce n'est pas son fantôme, si c'est bien Lazare. Et vous avez un Lazare rayonnant qui sort de la tombe. Des sœurs qui ne savent plus que penser, qui se jettent au cou de leur frère. Et les autres sont là, incrédules, en se disant, mais que s'est-il passé dans ces quelques minutes? Et alors que tout le monde maintenant est en train de regarder celui qui est sorti de la tombe et qui n'a pas un air cadavérique, il est plein de santé, rayonnant, et il sort, oui c'est bien moi, pendant que tout le monde est en train de voir si Lazare c'est vraiment Lazare, Jésus et ses disciples s'éclipsent et disparaissent. Cette démonstration aurait dû suffire pour convaincre ceux qui avaient une raison saine et éclairée. Ceux qui avaient une raison pure, simple, vraie, devant un tel spectacle, auraient dû avoir ce qu'il suffisait pour que leur foi s'applique à Jésus, Fils de Dieu, celui qui est la résurrection et qui est la vie. Pas seulement celui qui la donne, mais celui qui est la vie. Certains ont cru. Mais devant cet événement incroyable et extraordinaire, il y a là des gens qui maintenant ont un grave problème. Pendant de nombreux mois, les chefs religieux à Jérusalem ont fait tout ce qu'ils ont pu pour se convaincre les uns et les autres que la seule solution, c'était d'éliminer ce Jésus qui fait des miracles, qui guérit les aveugles, qui guérit les muets, qui guérit les lépreux, qui guérit les handicapés, qui accomplit toutes sortes de choses et que le peuple suit en masse. La seule solution, c'est de l'éliminer. Mais il y avait dans le groupe de ces gens les Sadducéens qui, eux, n'étaient pas tellement en faveur de cette mesure radicale. Les pharisiens, plus radicales dans leur façon de voir les choses, cherchaient à convaincre les Sadducéens, qui n'étaient d'ailleurs pas leurs amis, qu'il fallait en arriver à cette mesure-là. Mais eux, qui étaient davantage du parti des Romains, n'étaient pas favorables à une mesure si drastique. Si bien que dans les discussions au sein du Sanhédrin, on n'était pas encore arrivé à un accord qui rassemblait tout le monde. Il y en avait toujours qui mettaient des bâtons dans les roues pour arriver à cette décision-là. Mais dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11, au verset 47, il nous est dit « Alors, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ?» La réponse est très simple, elle vient au verset 53. « Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » Ah, voilà, enfin, ce jour-là, tout le monde dans le Sanhédrin, ou presque, a voté pour la mort de Jésus. C'est que les Sadducéens ont maintenant un problème, car les Sadducéens ne croient pas dans la résurrection. Et ils étaient là, et les témoins sont nombreux. Mais il continue à prêcher que la résurrection n'existe pas. Il est impossible qu'un mort ressuscite, disent-ils. Et voilà que Jésus, devant une grande foule de gens, eux y compris, va ressusciter Lazare qui sentait déjà. Que devient maintenant cet enseignement sur la non-résurrection ? Peuvent-ils encore enseigner ça alors que tout le monde à Jérusalem parle de Lazare qui était mort et qui est vivant? Que font-ils? Que pensent-ils? Ils sont dans une bien mauvaise situation. Alors c'est simple. Il n'y a que deux solutions. Ou bien on reconnaît que Jésus est le Sauveur et qu'on s'est trompé, ou bien on fait disparaître les preuves qui soutiennent la vérité et on continue à croire dans l'erreur. En réalité, c'est ce que le monde d'aujourd'hui est encore en train de faire. Et l'apôtre Paul a prévenu les frères et sœurs de l'Église de Colosse parce que ce problème n'est pas nouveau. C'était déjà le problème à l'époque. Lisez avec moi dans l'Épître aux Colossiens. Au chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 8, dit ceci, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Attention les amis. Il y en a qui vont arriver avec des philosophies écrasantes. Il y en a qui vont arriver avec des histoires à dormir debout, des traditions, et qui vont vouloir faire de Jésus un n'importe qui. Souvenez-vous, dit-il, qu'en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Et c'est vrai que jusqu'ici, le christianisme avait sur les autres religions un avantage extraordinaire. Parce qu'enfin, tous les fondateurs des autres religions sont morts. Je n'en prendrai pas une liste très longue, mais vous le savez. Mahomet, mort. Confucius, mort. Bouddha, mort. Tous les gourous, mort. Jésus, vivant. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a là un argument énorme qui montre que le christianisme est là dans une situation tout à fait à part. Alors c'est simple. Devant cette situation, on va faire aujourd'hui comme on a fait autrefois. On va essayer d'éliminer les preuves irréfutables de la vérité pour pouvoir continuer à prêcher l'erreur qui nous arrange. Et c'est ce que l'on entend aujourd'hui. Depuis déjà des années, on s'attaque à Jésus pour faire croire qu'il est un homme comme tous les autres, qu'il est un pervers comme tous les autres, qu'il est un homme qui n'a rien de plus que les autres. Et voilà que depuis ces dernières semaines, on veut nous faire croire que l'on a trouvé la tombe de Jésus. Mais si l'on a trouvé la tombe de Jésus, c'est qu'il n'est pas ressuscité. Et s'il n'est pas ressuscité, eh bien, le christianisme se retrouve dans la même situation que toutes les autres religions. Lui aussi est mort, figurez-vous. C'est ainsi que Jacobovici et Cameron, qui étaient déjà actifs dans la présentation de films à succès comme le Titanic, se sont joints, il y a déjà un certain temps aussi, à Dan Brown pour le Code da Vinci. Mais maintenant, ils reviennent sur la scène avec la découverte de la tombe de Jésus. Si l'on a véritablement la tombe de Jésus, cela veut dire que Jésus n'est pas ressuscité et que toute cette histoire en quatre exemplaires, Matthieu, Marc, Luc et Jean, cette histoire est fausse. En fait, il est vrai qu'une tombe a été découverte il y a 27 ans en arrière. Des archéologues ont fouillé cette tombe parce qu'un chantier avait été commencé. Et en creusant pour les fondations de ce chantier, comme c'est souvent le cas à Jérusalem, on est tombé sur des vestiges antiques. Les autorités israéliennes de l'archéologie sont venues sur place et ont fouillé. Et ils se sont trouvés en face d'une grande tombe, c'est-à-dire d'une grande pièce, avec plusieurs alcôves, et dans ces alcôves se trouvaient des ossuaires, c'est-à-dire des boîtes, dans lesquelles on avait placé les ossements des défunts. La pratique était la suivante. On enterrait le défunt dans un tombeau pendant une année environ, en attendant que la chair disparaisse. On rassemblait les os, on les mettait dans cet ossuaire, et on gagnait ainsi de la place. Le nombre de ces ossuaires trouvés en Palestine et dans la région de Jérusalem est innombrable. D'ailleurs, c'est au point où aujourd'hui, ces ossuaires sont tellement nombreux qu'on en fait volontiers, dans les maisons un petit peu riches, des bacs à fleurs, dans les jardins. Il y en a partout. En 1980, on est tombé sur cette tombe. Et sur plusieurs des ossuaires qui se trouvaient là, 6 parmi les 10 que contenait cette tombe, il y avait des inscriptions. Et l'on retrouve par exemple des inscriptions comme « Jésus, fils de Joseph, Marie, Maria Ménée, Matthieu, Judas, fils de Jésus, José » et d'autres noms. Les archéologues ont découvert cette tombe il y a 27 ans, mais voilà tout d'un coup que des cinéastes se réveillent et disent « Mais voilà, Jésus, fils de Joseph, Marie, et Marie Ménée, Marie-Madeleine, bien entendu, et Judas, le fils de Jésus. » Mais oui, voilà, on rebondit sur le Code da Vinci et le roman continue. Sauf que cette fois-ci, il n'est pas écrit « roman » en gros sur le livre, mais « preuve archéologique à l'appui ». Mais alors, si vraiment cette tombe contient les os de Jésus et de sa famille, l'apôtre Paul avait raison. Parce que dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 16, l'apôtre Paul écrit « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » Et en effet, si Jésus est dans sa tombe quelque part dans un quartier périphérique de Jérusalem, votre foi est vaine. Cela veut dire que Jean, sur l'île de Patmos, n'a pas vu Jésus dans sa vision de l'Apocalypse, parce que Jésus était mort. Ça veut dire que Hénoc, Élie et Moïse ne sont pas montés au ciel non plus, parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ça veut dire que Abel, Étienne et tous les martyrs de l'histoire sont morts pour rien. Ils sont morts pour un mort. Ça veut dire que le plan du salut a échoué. Ça veut dire que personne n'est sauvé. Ça veut dire que toutes ces églises sont ouvertes pour rien. Ça veut dire que vous croyez dans un mensonge qui ne sauvera personne. Qu'est-ce qu'on fait ici? Fermons la boutique. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, et de toute façon, dans ce cas-là, après votre mort, il n'y a rien. Rien. Si, effectivement, Jésus est au fond de son tombeau, là-bas, à Jérusalem, sachez que le jour où vous mourrez, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'espérance. Et il y a une foule de gens qui aujourd'hui sont prêts à croire les producteurs de films et les écrivains de romans plutôt que la parole de l'Évangile, parce qu'en réalité, ça fait leur affaire. On est impressionné par voir le succès, avoir le succès incroyable que ces romans ont dans le monde d'aujourd'hui. Vous voyez dans les magasins des piles énormes de ces romans, et les films seront vendus en aussi grand nombre. Et on en parle comme si c'était, permettez l'expression, parole d'Évangile. On a l'impression que le monde n'attendait que cela pour y croire. C'est écrit roman en gros sur le livre, mais on va le citer comme étant la vérité. On a l'impression que le monde d'aujourd'hui, embarrassé par l'Évangile, n'attendait qu'un argument qu'on puisse leur servir pour dire « Ah oui, moi je crois plutôt dans ça, parce que ça m'arrange. » Et pourquoi est-ce que le monde préfère croire en cela? C'est parce qu'en réalité, ça évite le renoncement à soi-même. C'est ça le prix à payer d'accepter l'Évangile tel qu'il est écrit. Alors on préfère croire ces soi-disant nouvelles découvertes, ces nouvelles révélations qui font paraître comme menteurs tous les écrivains bibliques jusque-là, parce qu'en réalité, ça fait notre affaire. On n'a pas besoin, comme cela, de renoncer à soi-même et de recevoir ce Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant et notre Sauveur. C'est un peu trop leur demander. Alors faut-il croire ces producteurs de films? Je ne suis pas archéologue, mais je sais lire et je crois que le Seigneur m'a donné autant de bon sens que les producteurs de films. Alors nous n'avons pas besoin de partir dans la grande science ni dans l'archéologie des profondeurs. Il nous suffit, je crois, ce matin de faire marcher le bon sens du croyant pour évaluer simplement ce que ces producteurs présentent aujourd'hui. D'ailleurs, remarquez que le temps est admirablement bien choisi. Dans quelques semaines, ce sera Pâques. Et à Pâques, on va célébrer justement la mort et la résurrection de Jésus. C'est pour ce moment-là que les producteurs vont sortir leur scoop extraordinaire pour montrer et démontrer que Jésus est encore dans sa tombe. La preuve, c'est marqué sur les ossuaires. Et ce ne sont pas des faux, disent-ils, puisque ces ossuaires sont restés dans la main des archéologues depuis 27 ans. Je vous propose simplement de faire marcher votre bon sens avec moi et de voir à quoi ressemble ce scoop extraordinaire. Jésus, non, figurez-vous, on a retrouvé ses os. La première chose qui me frappe, c'est ce qu'en disent les archéologues eux-mêmes qui ont fait les fouilles il y a 27 ans en arrière. Amos Cloner, qui a dirigé les fouilles en 1980, disait dans une interview avec le journal Newsweek, « C'est un grand scénario pour un film, mais c'est totalement impossible, c'est un non-sens. » José Zias, qui est de l'autorité israélienne pour l'archéologie, dans la même revue, disait « C'est une fabrication cinématographique qui représente une malhonnêteté intellectuelle et scientifique. » William Dever, un archéologue de renom que vous connaissez peut-être, avait été interviewé dans le Washington Post. Il écrit « Je connais ces ossuaires depuis longtemps et beaucoup d'autres archéologues aussi. Mais personne d'entre nous n'a jamais vu en cela quoi que ce soit de particulier parce que ce sont des noms juifs tout à fait communs à cette période. Il s'agit d'un grand coup publicitaire qui rendra ces gens très riches et qui déroutera des millions d'innocents qui ne savent pas discerner entre les faits et la fiction. » Comment se fait-il que cette tombe découverte il y a 27 ans n'est utilisée par ces producteurs de films que maintenant pour prétendre que c'est la tombe de Jésus? Les scientifiques qui ont travaillé là-dessus n'ont-ils pas vu ça depuis 27 ans? N'ont-ils pas vu écrit ces noms sur les ossuaires? J'ai rassemblé en 7 raisons simples les arguments pour lesquels un croyant tout simple comme vous et moi peut comprendre de quoi il s'agit dans cette annonce de la découverte de la tombe de Jésus. D'abord, les scientifiques eux-mêmes le qualifient de fraude, de malhonnêteté intellectuelle. Deuxièmement, il est écrit sur ces ossuaires « Jésus, fils de Joseph ». Or, la famille de Jésus, les amis de Jésus, les disciples et les apôtres n'appellent jamais Jésus, fils de Joseph. Parce que pour eux, il n'est pas le fils de Joseph. Ils savent qu'il est le fils de Dieu, au plus de Marie, mais pas de Joseph. Par contre, ce titre-là est employé par les ennemis de Jésus, qui se plaisent à faire comprendre que Jésus est né un petit peu quand même trop tôt dans le mariage de Joseph et Marie, et que cette histoire de conception surnaturelle, non, Jésus c'est le fils de Joseph. Alors expliquez-moi, pourquoi est-ce que la famille de Jésus aurait inscrit sur son ossuaire « Jésus, fils de Joseph » aurait-il écrit sur sa tombe ce que ses ennemis veulent dire de lui pour détruire sa divinité, alors que sa famille s'est convertie et l'a reçu comme le sauveur du monde? Personne n'aurait écrit une chose pareille. Troisièmement, la famille de Jésus vivait à Nazareth. Et finalement, tous l'ont accepté comme leur sauveur. Maintenant, les plus grands ennemis de Jésus, et par conséquent de sa famille et des disciples, étaient à Jérusalem, évidemment. Et ils cherchaient à trouver son corps pour prouver qu'il n'était pas ressuscité. Pour prouver, comme ils essayaient de le faire croire, que les disciples l'avaient volé. Et vous pensez que la famille de Jésus serait venue installer la tombe de Jésus à Jérusalem ? Sous le nez de leur ennemi, non pas en cachette, mais dans une grande tombe richement décorée. Est-ce que c'est là qu'ils auraient mis les restes de Jésus pour donner à leur ennemi tous les arguments qu'ils attendaient pour dire l'inverse de l'Évangile? Personne n'aurait fait ça. Quatrièmement, la famille de Jésus vivait à Nazareth et elle avait son origine à Bethléem. Il n'y avait aucune raison d'avoir la tombe familiale à Jérusalem. De plus, nous savons que la famille de Jésus était une famille pauvre. Lorsque Jésus est né, c'est le sacrifice des pauvres que l'on a apporté au temple. Cette tombe qui a été découverte il y a 27 ans est une tombe de gens très aisés, richement décorés. Personne n'aurait jamais pu dans la famille de Jésus se payer même une partie de cette tombe. Dans Jérusalem, s'il vous plaît. Est-ce que la famille pauvre de Jésus serait venue se mettre là? Jamais de la vie. D'autre part, cinquièmement, les inscriptions qui sont sur ces ossuaires donnent des noms qui ne sont pas de la famille de Jésus. Et les noms que nous connaissons être de la famille de Jésus ne s'y trouvent pas. Bien sûr, ces noms pourraient, dans l'esprit de certains, correspondre. Mais écoutez, ne serait-ce que dans l'Église, combien d'entre vous ont le même nom? De même, à Jérusalem, à cette époque-là, ces noms étaient plus que courants. Ainsi, les noms ne correspondent pas, d'après les Évangiles, à ce que nous connaissons de la famille de Jésus. Sixièmement, si Jésus n'est pas ressuscité, les premiers qui le savent sont les disciples. Est-ce que vous pouvez comprendre que ces disciples devenus apôtres vont prêcher toute leur vie le salut en Jésus-Christ et vont être capables d'aller jusqu'à la mort pour une histoire qu'ils savent être fausse, pouvez-vous imaginer ses disciples courir le monde de l'époque, être prêts à mourir en sachant très bien dans le fond de leur mémoire qu'en fait Jésus est mort à Jérusalem, qu'il y est encore, qu'il est au fond de son tombeau quelque part? Serait-il prêt à mourir pour cette histoire montée? Et cette histoire montée produirait-elle des conversions par milliers et des changements dans la vie de ces gens qui reçoivent Jésus comme leur sauveur personnel? Et puis, septièmement, comment comprendre que des soldats romains, postés devant la tombe pour la garder, puissent s'endormir? Lorsqu'un soldat romain s'endort dans son service de garde, il est puni de mort. C'est aussi simple que ça. Et les soldats courent le matin et vont dire « Il est ressuscité ». L'évangile de Matthieu au chapitre 28 nous rapporte qu'on leur a dit « Écoutez, dites que vous vous êtes endormis. » Et vous pouvez entendre la discussion, mais on ne peut jamais dire ça si on dit qu'on s'est endormi. C'est nous qui allons mourir pour de bon. Vous inquiétez pas, prenez cette grosse somme d'argent, nous dit l'évangile selon Matthieu. Et ils ont été payés grassement pour dire « Pendant notre faiblesse, les disciples sont venus, ont volé son corps pour faire croire qu'il était ressuscité. » Mais mes amis, ces disciples-là, ces mêmes disciples, lorsqu'on approche de Jésus pour l'arrêter, s'enfuient comme des mouches parce qu'ils ont peur. Jésus est mort et ils vont s'enfermer dans une petite pièce parce qu'ils ont peur qu'on vienne frapper à la porte pour les saisir aussi. Et vous croyez que ce sont eux qui vont aller braver les armées romaines pour sortir un corps d'un tombeau? Ah mais bien sûr, et tout le monde dans Jérusalem va croire ça. C'est les soldats qui l'ont vu. Et personne ne s'étonne qu'on ne va pas punir de mort ces soldats qui s'endorment. Et personne ne s'étonne que ces pauvres disciples, peureux comme je ne sais quoi, tout d'un coup sont pris d'une audace extraordinaire pour aller, pendant le sommeil des soldats, kidnapper le corps de leur maître. Mes amis, s'il vous plaît, parlez-moi plutôt des éléphants bleus qui volent à travers le monde, propulsés avec l'air qu'ils soufflent par leur trompe, et qui atterrissent en douceur sur leurs oreilles. Ça serait beaucoup plus logique. Ça serait beaucoup plus compréhensible. Ça, je pourrais le comprendre. Mais ne me dites pas que Jésus est encore dans sa tombe. Aujourd'hui, comme au temps de Jésus, on préfère détruire l'évidence qui soutient la vérité plutôt que d'accepter que Jésus soit notre sauveur, parce que cela demande de notre part de renoncer à nous-mêmes. Jésus est véritablement vivant. Les attaques qui sont multipliées contre Jésus depuis un certain temps ont un objectif bien clair: faire de Jésus un homme comme tous les autres. Et si Jésus est un homme comme tous les autres, sa loi n'a plus de valeur. S'il est un pervers comme les autres, s'il a aussi les mêmes faiblesses que les autres, s'il est comme tous les autres, sa loi n'a pas de valeur pour moi. Elle n'a de valeur que pour ceux que ça intéresse. Et par conséquent, chacun peut faire ce qu'il veut, ce qu'il pense être bien pour lui. Et cette idée très contemporaine fait son chemin, selon laquelle finalement chacun est assez grand pour choisir ses propres lois et pour choisir et savoir ce qui est bon ou mauvais pour lui. On n'a pas besoin d'un Jésus comme tous les autres hommes pour nous le dire. Et surtout pas d'une loi qui nous ennuie. Voilà l'objectif. Il est clair. Mais il est clair depuis le moment même où Jésus est ressuscité. Jésus était embarrassant lorsqu'il était vivant. Jésus était embarrassant lorsqu'il était mort. Jésus est encore embarrassant alors qu'il est vivant aujourd'hui. Et les êtres humains feront n'importe quoi et tout ce qu'ils peuvent pour se débarrasser de lui, vivant ou mort. Dans le livre des Actes, au chapitre 5, les apôtres étaient déjà confrontés à ce même défi. Et voici comment ils répondent. Dans le livre des Actes, au chapitre 5, Pierre, et il n'est pas le seul, les autres apôtres sont avec lui pour dire la même chose, nous dit le texte. s'adressent à tous ceux qui veulent l'entendre. Et ils disent, acte 5, verset 29, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » C'est un témoignage clair, direct et hardi. Jésus est ressuscité parce que vous l'avez mis à mort, nous sommes témoins de ces choses. Et aujourd'hui, où sont les témoins de ces choses? Est-ce que nous n'avons pas les uns et les autres vécu une expérience suffisamment personnelle avec le Christ pour savoir qu'il n'est pas un petit nuage, qu'il n'est pas une puissance évaporée, qu'il n'est pas un tas d'os au fond d'une tombe à Jérusalem, mais qu'il est vivant bel et bien dans le ciel aujourd'hui, où il intercède pour nous? N'avez-vous pas été pardonné de vos péchés en son nom? À l'époque de Jésus, les disciples déjà étaient confrontés à ce défi de rendre témoignage que Jésus est vivant. Oh, l'on pourrait apporter de multiples arguments et des pour et des contre et des scientifiques et des technologiques. On pourrait introduire tous les arguments que l'ADN peut apporter pour ou contre. Mais le meilleur argument que Jésus est vivant, c'est qu'il est vivant en nous et qu'il a transformé notre vie et qu'il a fait de nous, des pécheurs que nous étions, des candidats à la vie éternelle ici et maintenant. Plus Jésus est attaqué, plus il sort victorieux parce que ceux qui attaquent Jésus par le cinéma et par les livres, ne se rendent même pas compte qu'en fait, ils accomplissent la prophétie. Lisez avec moi ce que l'apôtre Paul écrit dans la première épître à Timothée, au chapitre 4. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 3. Il est écrit ceci. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Les fables, nous les avons, elles sont là sous nos yeux, nous les entendons, elles sont présentes. Et ce que l'apôtre Paul dit se réalise. « Il viendra un temps, disait-il, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ce temps est arrivé. » Mais il est temps aussi de voir ceux qui non seulement supportent la saine doctrine, mais qui la vivent et qui ont reçu Jésus-Christ vivant dans leur vie aujourd'hui. Ce sont eux qui sont les arguments les plus forts pour la vie de Jésus. Ce sont eux les témoins qui prennent la relève de Pierre et des autres et qui disent « Christ est vivant ». D'ailleurs, nous sommes prévenus dans le livre même de l'Apocalypse. Jésus avertissait les églises de ce qui les attendait. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 10, Jésus s'adresse à l'église de Philadelphie et il dit ceci. Apocalypse, chapitre 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Jésus nous a avertis qu'il va venir sur le monde entier une tentation d'envergure, une tentation telle qu'elle va essayer même de faire tomber dans le doute les croyants les plus affermis. Cette tentation, elle ne va pas venir dans un coin particulier de l'univers, où frappait peut-être seulement une partie du christianisme, Jésus dit « Cette tentation va venir sur le monde entier, pas pour éprouver les chrétiens, pour éprouver les habitants de la terre. » Ce à quoi Jésus nous dit « Je viens bientôt. » C'est là donc un signe des temps. Attaquez Jésus tant que vous voulez. Vous ne faites que réaliser la prophétie que lui-même a donnée. Et nous savons d'autant mieux que Jésus revient bientôt. Alors suis ce conseil, retiens ce que tu as. Encore faudrait-il que nous l'ayons, et si nous ne l'avons pas, et si vous avez le sentiment de ne pas l'avoir, c'est le moment ou jamais. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, écrit le même auteur. Si vous ne l'avez pas, c'est le moment ou jamais de l'avoir. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de l'avoir aujourd'hui, il s'agit de le retenir jusqu'au bout. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen.